Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Culture et Éducation que nous allons consacrer à l'impact de notre alimentation sur la santé. Peut-être allez-vous vous demander pourquoi parler d'alimentation dans une émission dont les grands thèmes sont la culture et l'éducation, mais ces sujets ne sont certainement pas étrangers les uns aux autres. D'abord parce que c'est d'abord par l'éducation que se prennent les bonnes habitudes quelles qu'elles soient et que se débarrasser des mauvaises est souvent bien compliqué. Il semble évident que l'alimentation a des conséquences importantes sur la santé. On pense évidemment à l'obésité, un problème de santé publique mondiale. Pour vous donner une idée, 30% des Français sont en surpoids, 17% sont obèses et les chiffres ne s'améliorent pas d'année en année. Mais la question de l'alimentation, ce n'est pas uniquement celle du poids. Mais des études montrent très clairement qu'un poids excessif entraîne des inconvénients pour la santé et peuvent réduire l'espérance de vie. Il augmente ainsi le risque de maladies cardiovasculaires, première cause de décès dans le monde, de diabète, de troubles musculo-squelettiques, de nombreuses formes de cancer. L'alimentation n'est pas seule en cause, mais c'est un point sur lequel chacun peut avoir une action. Des solutions existent pour trouver ou garder la santé grâce à son assiette. Pour parler de cette question qui nous touche tous, parce que tous nous devons manger, je reçois aujourd'hui le docteur Nicolas Zamaria, biologiste médical, directeur de laboratoire et spécialisé en nutrition et biologie. Bonjour docteur Zamaria.
Bonjour madame Ruberti.
Alors quand un auteur écrit un livre, la première question qu'un journaliste a envie de lui poser, c'est pourquoi? Et vous, est-ce uniquement pour parler de nutrition que vous avez écrit Votre santé au bout de la fourchette aux éditions Résurgence? Résurgence étant une maison spécialisée dans les livres médicaux. Alors, pourquoi ce livre?
Ben écoutez, au cours de ma formation de biologiste médical, la nutrition n'était pas enseignée. Et c'est une rencontre fortuite avec le professeur Robert Zitoun, qui était un grand hématologue qui travaillait à l'Hôtel Dieu. Et lors d'une discussion, il me demandait si j'étais intéressé de faire des travaux de recherche en nutrition et surtout le rôle de l'alimentation avec le cancer. Donc, à l'époque, c'était au début des années 80, le cancer était lié au tabac, il était lié aux hormones, à des facteurs génétiques, mais personne ne soupçonnait qu'il y avait un lien entre alimentation et cancer.
Il y a 40 ans, on n'imaginait pas du tout que l'alimentation puisse avoir un rôle dans le développement de cancer.
Absolument.
C'est étonnant.
Et donc, pendant 5 ans, j'ai mené des recherches sur des malades qui avaient différents types de cancers. Et au bout de ces 5 ans de recherche, j'ai abouti à plusieurs conclusions. Je vous cite les plus importantes. Le premier, c'est qu'il y a un lien entre alimentation et obésité, ce qui était tout à fait attendu.
Oui, là, il n'y a pas vraiment de surprise.
Absolument. Et puis, que l'obésité était un facteur de risque de cancer. Donc, à l'époque, c'était une innovation, une nouveauté, mais il fallait que d'autres équipes, d'autres chercheurs aboutissent au même résultat. Et aujourd'hui, la communauté scientifique et médicale valide l'idée que l'obésité est un facteur de risque de cancer, indépendamment d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaire, le diabète et bien d'autres maladies chroniques.
Et donc, vous vous êtes dit, bah, finalement, faisons le point 40 ans après sur l'ensemble des études, votre expérience, tout ce que vous avez fait sur
tout à fait.
Les études que vous avez menées sur ce sujet, les
oui,
recherches.
Oui, tout à fait. Donc, quand je me suis installé, j'ai créé un laboratoire de biologie médicale en 1986 à Paris. Et au sein de ce laboratoire, j'ai développé des analyses spécialisées en nutrition pour le dosage des protéines, des acides gras, les oméga-3, les oméga-6. Et à l'époque, j'étais le premier en France à m'intéresser au profil nutritionnel des patients, le dosage des métaux lourds, etc. etc. Et j'ai bien compris que l'alimentation, la nutrition joue un rôle très important, non seulement dans les maladies chroniques, mais même dans les pathologies quotidiennes, les migraines, les problèmes cutanés, les douleurs articulaires et bien d'autres pathologies qui concernent tout un chacun.
Mais ça veut dire qu'on n'est pas uniquement dans les questions d'allergie, parce que vous parliez de dosage, etc. Et on sait très bien que c'est quand vous avez parlé de migraines que j'y ai pensé. Par exemple, un certain nombre de produits laitiers peuvent entraîner des migraines chez certaines personnes
Absolument,
qui sont sensibles.
Tout à fait, oui.
Et donc, vous ne parlez pas uniquement de questions d'allergie ou d'intolérance.
Je parle, si vous voulez, que le plus important, c'est d'avoir un écosystème intestinal en équilibre. L'écosystème intestinal, c'est un trépied qui est constitué de notre microbiote intestinal. Ce sont les 100 000 milliards de bactéries qui se trouvent dans notre tube digestif. C'est le système immunitaire, puisque 80% de notre système immunitaire se trouve dans le tube digestif. Et c'est la paroi intestinale qui doit être de bonne qualité. Et lorsqu'il y a une rupture de l'équilibre de notre microbiote, parce que notre alimentation est déséquilibrée, elle est riche en sucre, en sel, en produits ultra transformés, et qu'on a subi des médicaments style antibiotiques pendant très longtemps, le stress chronique, la sédentarité, toutes ces situations contribuent au déséquilibre du microbiote intestinal. Et du coup, le système immunitaire, il est moins performant. La paroi intestinale, qui théoriquement, elle doit être étanche, parce que la seule fonction de la paroi intestinale, qu'on appelle aussi la barrière intestinale, c'est de filtrer les nutriments qui ont été assimilés, c'est-à-dire les acides aminés qui proviennent des protéines, les acides gras qui proviennent des lipides et les sucres simples qui proviennent des glucides, les oligoéléments, les vitamines et les minéraux. Tout le reste doit être jeté dans les selles. Ça, c'est lorsque la paroi intestinale...
C'est quand tout va bien.
Absolument. Lorsque la paroi intestinale, elle est fonctionnelle, elle assume son rôle principal de filtrer tous ces nutriments. Et ces nutriments, une fois qu'ils ont été assimilés et absorbés, ils vont, via la circulation sanguine, aller nourrir nos tissus et nos organes pour qu'ils fonctionnent.
Alors, quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit qu'il faut absolument parler du microbiote. Alors, vous l'avez déjà évoqué, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu mystérieux, peut-être, que nos auditeurs aimeraient bien en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que ce précieux, je ne sais pas comment, c'est pas un organe, c'est un ensemble d'éléments. D'éléments qui sont contenus dans notre organisme.
Le microbiote, ce sont ces 100 000 milliards de bactéries qui colonisent notre tube digestif. Et elles assument des fonctions vitales.
Quand vous dites coloniser, on a l'impression que c'est négatif, mais pas du tout.
Pas du tout. Elles sont là, on vit en bonne intelligence, en symbiose. Nous, on les nourrit, on les loge, mais en échange, ils nous rendent énormément de services. Parmi ces services... c'est que ces bactéries, ce microbiote, va pouvoir assimiler les fibres. Parce que nous, les humains, nous n'avons pas suffisamment d'enzymes pour assimiler les fibres. Les fibres qu'on trouve dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, eh bien, c'est grâce à notre microbiote que les fibres sont assimilées. Et quand elles sont, les fibres, quand ils sont assimilés, eh bien, ils vont se transformer en des substances très utiles, qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Ces acides gras à chaîne courte vont améliorer et renforcer la qualité de la muqueuse intestinale. Ils vont stimuler les défenses immunitaires. Ils vont améliorer le métabolisme des glucides et nous protéger du diabète. Ils vont améliorer le métabolisme des lipides et du cholestérol et nous protéger de l'athérosclérose, qui d'ailleurs, l'athérosclérose qui fait le lit des maladies cardiovasculaires. Et en même temps, ces microbiotes vont produire des substances très utiles. Ils vont fabriquer pour nous les vitamines B. Ils vont fabriquer pour nous la vitamine K. Toutes ces vitamines jouent un rôle très important. Ils vont renforcer le système immunitaire.
Le système immunitaire, c'est ce qui nous permet de ne pas attraper toutes les maladies qui traînent.
Absolument, parce que lorsque notre système immunitaire est déréglé, ça favorise les infections à répétition, ça ouvre la porte à des maladies auto-immunes et ça ouvre aussi, ça fragilise pour favoriser certaines maladies cancéreuses. Donc le système immunitaire doit être en bon état d'éveil pour nous protéger des intrus, de toutes les substances potentiellement nuisibles pour l'organisme.
Alors, un petit mot aux auditeurs. Si vous avez des questions à poser au docteur Zamaria, n'hésitez pas. Alors, bien évidemment, il ne traitera pas les cas particuliers, mais peut-être avez-vous des questions sur tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à appeler la radio ou à laisser un message sur le site de Radio Courtoisie pour que l'on puisse avancer sur des points particuliers qui vous intéressent. Alors
juste
pardon,
pour clore un peu votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui, le microbiote est considéré comme un organe noble à part entière, comme le cœur, comme le foie et comme le cerveau. Chose qui était impensable il y a 40 ou 50 ans, on pensait que ces bactéries jouaient le rôle juste sans aucun intérêt et qu'on les éliminait dans les selles et qu'ils proviennent de temps en temps par l'alimentation.
Alors, est-ce que ça explique peut-être le fait que la découverte de ces éléments importants, qu'on donne peut-être moins d'antibiotiques maintenant, alors qu'on y allait plus facilement il y a quelques dizaines d'années, et on s'est rendu compte que finalement c'était assez destructeur pour le microbiote?
On donne moins d'antibiotiques parce que les antibiotiques, quand on les donne à outrance, ça favorise la résistance des bactéries. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est qu'on a de plus en plus de souches bactériennes qui résistent au traitement antibiotique. C'est pour cela qu'il faut donner des antibiotiques lorsque c'est justifié. Par contre, une fois qu'on a eu des antibiotiques, il est évident que les antibiotiques détruisent les mauvaises bactéries, mais malheureusement, ils peuvent réduire également certaines bactéries bénéfiques. C'est pour cela, après une cure d'antibiotiques, je trouve qu'il est prudent, il est sage de compléter par une cure de probiotiques pour compenser la perte des bactéries bénéfiques qui ont été impactées par le traitement antibiotique.
Alors, les probiotiques, de quoi s'agit-il ?
Alors, les probiotiques, ce sont des bactéries vivantes qui vont venir enrichir notre microbiote et le diversifier. Et plus le microbiote, nos bactéries sont riches, sont diversifiées, plus il assume ses fonctions d'une façon optimale. Donc c'est pour cela, dans certaines maladies, à la suite d'antibiotiques ou malheureusement au cours du vieillissement, on s'est rendu compte que le microbiote a tendance à diminuer. Donc l'idée d'avoir une alimentation déjà riche en probiotiques, il y a des aliments qui sont riches en probiotiques.
Par exemple, allons-y.
Tout ce qui est les produits fermentés, le lait fermenté, le thé fermenté, qu'on appelle le kombucha, le kéfir, la choucroute, les olives, le concombre, la soupe miso. Tous ces aliments sont excessivement riches en probiotiques. Donc, il faut favoriser ces aliments qui sont riches en probiotiques. Mais en même temps, les bactéries elles-mêmes, elles ont besoin, en plus de ces bactéries amies qui viennent renforcer notre microbiote, les bactéries, notre microbiote, a une préférence pour certains aliments. Ce sont les légumes, les végétaux, les légumineuses. C'est pour cette raison qu'il faut également enrichir notre alimentation par ces substances-là pour enrichir et diversifier le microbiote.
Vous allez nous dire 5 fruits et légumes par jour.
Oui, mais alors, je suis entièrement d'accord. Par contre, je trouve le message n'est pas très clair. Pourquoi ? Parce que 5 fruits et légumes, ça veut dire quoi ? 5 cerises et une feuille de salade ? Ou bien ce sont 5... quatre radis avec un pruneau, c'est pas très clair. Moi, je dirais, il faut 240 grammes de légumes et 120 grammes de fruits.
Au moins, ça c'est clair et précis. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut vraiment tenir sa santé au bout de sa fourchette. Et c'est une bonne nouvelle, finalement.
Absolument, parce que en plus, l'alimentation, elle va contribuer à notre santé, au maintien de notre santé et à notre bien-être physique et émotionnel. Donc, Et la santé se construit dès le plus jeune âge. C'est-à-dire il faut donner aux enfants les bonnes habitudes,
oui, si on en deviendra...
les bonnes habitudes pour manger et ne pas aller dans des aliments qui ne sont pas recommandables.
Vous parlez beaucoup dans votre livre, donc je rappelle votre santé au bout de la fourchette, des aliments ultra transformés. Quel est l'impact, leur impact sur notre santé?
Alors, qu'est-ce que c'est un aliment ultra transformé? Ce sont les aliments industriels.
Tout prêt, en fait.
Tout prêt. Alors, quand vous allez, par exemple, au supermarché et vous voulez acheter une barre chocolatée ou un autre produit, et vous voyez des petites lettres sous forme de E. E, ce sont des conservateurs. Et dès qu'il y a plus de E, E 220, E 230, etc., plus il y a de E, plus ça veut dire que l'aliment est ultra transformé. Donc, pourquoi ils sont dangereux? Parce que ces aliments ultra transformés, ils contribuent à l'obésité, au diabète, aux maladies cardiovasculaires.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans un aliment industriel, on a plus le risque enfin, c'est plus mauvais pour la santé? Est-ce que ça n'est pas uniquement parce qu'ils sont plus gras, plus sucrés, mais ce sont tous ces éléments supplémentaires qui sont ajoutés?
Absolument.
Parce et dont on ne connaît pas forcément l'impact.
Ce sont des produits chimiques. L'organisme, il est fait pour assimiler les acides aminés, les acides gras, les vitamines, les minéraux qui se trouvent dans les aliments. Et pas ni les pesticides, ni les insecticides, ni les fongicides, ni les aliments transformés ou ultra transformés. Toutes ces substances risquent d'être sur le long terme nuisibles pour la santé.
Il y a des études qui ont été faites et qui prouvent ces éléments-là. Quand on a une alimentation faite de produits naturels, entre guillemets, enfin de produits bruts, et une alimentation à base de produits ultra transformés, est-ce que des études prouvent l'impact sur la santé ou est-ce que c'est...
On sait par exemple que depuis le milieu du XXe siècle, lorsque on a introduit l'agriculture intensive, on a utilisé des substances transformées qui se trouvent malheureusement dans certains aliments. Et l'industrie aussi, elle rajoute des produits chimiques. Sur le long terme, ça peut être nuisible pour certaines personnes. Donc, quand on peut manger bio, c'est mieux. Quand on peut manger des produits de saison, c'est mieux. Quand on peut manger des produits circuit court, c'est mieux. Donc, tout ça, ce sont des conseils qui permettent de préserver la santé et éviter les maladies sur le long terme.
Et est-ce que ces études ont pu permettre d'obtenir l'interdiction d'un certain nombre de produits qui seraient vraiment dangereux, ou est-ce que finalement on ferme un peu les yeux et on se dit il faut réussir à conserver les produits?
Bien sûr, il y a régulièrement des études qui sont faites par les autorités pour dire que tel produit aujourd'hui est interdit. Mais il y a bien sûr toujours des produits qui circulent, mais de temps en temps, il y a une réactualisation en disant que tel autre produit ne doit pas dépasser tel seuil ou il doit être interdit. Régulièrement, les autorités font des études pour protéger les gens de ce genre de produits potentiellement nuisibles.
Avez-vous l'impression qu'il y a une évolution dans le bon sens? De la mise au ban d'un certain nombre de produits où finalement on reste très, très un peu négligent par rapport à ces sujets-là. Parce qu'on ne peut pas tout interdire.
On ne peut pas tout interdire, mais faisons ce qu'on peut faire, ce qui est à notre portée et évitons le pire.
On va reprendre cette conversation dans un instant avec le docteur Zamaria, en attendant une petite pause musicale.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Sibarte doch nicht. Eile, eile, mein Friedrich, eile, Sibarte.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie avec Sophie Rouberti dans l'émission Culture et Éducation. Je reçois le docteur Nicolas Zamaria, biologiste, spécialiste de nutrition, à propos de son livre « La santé, votre santé, au bout de la fourchette ». Alors, nous parlions des produits ultra transformés avant notre pause musicale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter ?
Ben, le mieux, c'est de cuisiner chez soi. Avec des produits frais, avec des produits de saison. Et lorsque vous constatez qu'il y a beaucoup de conservateurs dans certains produits, quand il y en a plus de deux conservateurs, eh bien il faut...
Plus de deux, c'est un peu la règle.
Oui, la règle. Enfin, voilà. Plus de deux. Ça veut dire que le produit est ultra transformé.
C'est-à-dire sur la liste des ingrédients, voilà. On regarde, si on a plus de deux E,
voilà.
On évite.
Voilà, exactement, c'est ça, c'est des produits ultra transformés. Et favoriser les produits frais, les produits de saison. Et quand on peut cuisiner chez soi, on sait ce qu'on met dans nos plats et dans nos assiettes.
Je me mets à la place d'une mère de famille un peu débordée qui ne peut pas tout cuisiner par elle-même. Comment est-ce qu'elle peut faire pour éviter que ce soit trop mauvais si elle doit prendre des produits déjà tout prêts ? Qu'est-ce que vous conseilleriez ?
Aujourd'hui, il y a des cuiseurs qui facilitent grandement la tâche des ménagères et des personnes qui cuisinent. Il y a aujourd'hui des moyens, il y a des recettes qui sont simples, qui sont diffusées par les médias, qui sont faciles à utiliser. Et pourquoi pas ne pas utiliser ces recettes simples dans des cuiseurs simples et manger des produits frais et de saison.
Oui, donc c'est vraiment, vous insistez vraiment sur cet aspect-là, et on voit sur la santé globale des familles un impact réel.
Oui.
J'avais une question concernant les régimes. Alors, on dit que l'obésité, le surpoids sont une vraie catastrophe sanitaire. Donc finalement, la tentation, ça va être de se mettre au régime.
Oui.
Donc, quelle est votre attitude par rapport au régime ?
C'est vrai que quand on regarde les régimes qui sont proposés dans des ouvrages en librairie, il y a des régimes qu'on appelle les régimes protéiniques.
C'est-à-dire on mange que des protéines.
Alors il y a des régimes aussi qu'on appelle.
C'est efficace d'ailleurs. On perd du poids rapidement.
Je vais vous répondre.
Je vous laisse.
Oui. Ensuite il y a le régime lipidique qu'on appelle le régime cétogène. C'est-à-dire il faut manger que des aliments riches en gras et en lipides. Et il y a aussi le régime zéro sucre. Tous ces régimes ne sont pas fiables sur le long terme. Même si certains peuvent donner de résultats encourageants au début, sur le long terme, on constate que ces régimes ne marchent pas. Il y a un seul régime que je recommande aux auditeurs et qui a fait son efficacité par des études scientifiques, des études médicales, avec de grandes enquêtes épidémiologiques, c'est le régime méditerranéen. C'est le seul qui a montré qu'il nous protège contre l'obésité, contre le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers et à plus long terme, les maladies neurodégénératives. Donc, dans le livre, je décris d'une façon très détaillée, c'est un régime qui est facile à suivre, il est de bon sens, et scientifiquement, médicalement, aujourd'hui, c'est le seul régime qui est validé par la communauté scientifique.
Est-ce qu'on peut considérer que c'est un mode d'alimentation plus qu'un régime qui serait très restrictif? Parce qu'en fait, les régimes restrictifs ne sont pas bons pour la santé, puisqu'en fait, ils privent notre organisme de tout ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de tous les aliments. Donc, à partir du moment où on est restrictif, c'est mauvais pour la santé à long terme. Je pense par exemple à... Je pense dans les années 70, il y avait un régime monodiète qui était le régime ananas, où on mangeait que de l'ananas. Je n'ose pas imaginer la catastrophe que ça devait être. Déjà parce qu'on ne devait plus supporter l'ananas, mais surtout c'est bourré de sucre et on manque beaucoup de nutriments. Donc est-ce qu'on peut considérer le régime méditerranéen comme un régime, comme le serait le régime protéiné ou le régime... que lipidique, c'est plutôt une manière de considérer l'alimentation en général.
C'est un régime qui est complet, puisque et dans ce régime-là, on a des protéines, on a des lipides et on a des sucres.
Dites-nous un peu plus sur ce que contient le régime méditerranéen.
Alors, le régime méditerranéen, il contient à peu près, pour nos besoins énergétiques, à peu près 50% de glucides, 35% de lipides et 15% de protéines. C'est-à-dire, concrètement, il faut manger tous les jours, deux fois par jour des légumes, deux fois par jour des fruits, une ou deux fois par semaine de la viande, deux fois par semaine du poisson, et de préférence du poisson gras, qui est riche en oméga-3, parce que les oméga-3 nous protègent contre certaines maladies.
Donc c'est
flétans, maquereau, saumon. Voilà. Éviter les gros poissons qui sont un peu contaminés par les métaux lourds.
Genre le thon.
Tous les gros poissons. Manger du poulet deux fois par semaine. Des protéines végétales, des œufs, diversifier son alimentation. Concernant les boissons, de l'eau, un verre de vin par jour, pas plus et pas tous les jours. La tisane à volonté, le café, 3-4 tasses par jour. Le thé vert, le thé c'est excellent. Toutes ces boissons, thé, vert, contiennent des antioxydants. Ils nous protègent contre le vieillissement accéléré et sont tout à fait recommandables. Donc, c'est un régime qui est équilibré, qui est diversifié et il nous apporte à la fois les protéines, les lipides et les glucides dont on a besoin.
Nos auditeurs se demandent peut-être dans quels végétaux on a des protéines. Parce que quand on parle protéines, on imagine poisson, viande, œufs. Mais les protéines végétales...
Alors,
sont...
on les trouve dans les légumineuses, c'est-à-dire pois chiches, lentilles. Toutes ces substances sont riches en protéines. Et les végétaux, ils sont plutôt riches en fibres pour nourrir le microbiote. Et puis, ils nous apportent également des vitamines, des oligo-éléments, tout ce dont l'organisme a besoin pour fonctionner d'une façon optimale.
Voilà, alors, chers auditeurs, vous avez votre régime alimentaire en quelques mots. En tout cas, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est de la variété... De l'abus en rien, vous n'êtes pas restrictif, puisque le vin, vous l'entrez dans le régime alimentaire, pas tous les jours, mais finalement. C'est faites-vous plaisir, sans abus de sucre, pas trop de gâteaux, pas de boîte de boissons gazeuses. Et c'est à peu près.
Alors,
c'est à peu
près le vin, il contient des polyphénols, et ces polyphénols nous protègent contre les maladies cardiovasculaires. C'est un peu le fameux le French paradox qui a été initié dans les années 90 par le professeur Serge Renaud et qui a montré que l'alimentation en France est dans l'ensemble est satisfaisante et un des paramètres qui contribue à cette santé, c'est la consommation modérée, je dis bien modérée, du vin grâce à sa richesse en polyphénol.
C'est ce qui rend fou les Américains, en tout cas les nutritionnistes américains, c'est qu'en mangeant du cassoulet et en buvant du vin, on puisse être en pleine forme.
Absolument. Et d'ailleurs, la France, c'est un des pays où on a une bonne longévité.
Alors la longévité est bonne, mais comme je le disais en introduction, finalement, on a quand même 30% de personnes en surpoids.
Oui, et ça, c'est nouveau. Ça, c'est depuis à peu près à partir du milieu du XXe siècle, lorsque on a notre industrie agroalimentaire a été complètement modifiée, on constate qu'il y a eu une augmentation de la surcharge pondérale et l'obésité, non seulement en France ou en Europe, mais même les pays comme les pays asiatiques qui, avant 2000, avaient une alimentation typiquement locale. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, ils sont ouverts sur l'alimentation type occidentale et on voit dans ces pays l'émergence de très nombreuses personnes en surcharge pondérale. Et même en Chine et en Inde, le diabète, l'obésité commencent à être un sérieux problème de santé publique.
Alors, c'est vrai que il n'y avait pas d'obésité il y a 30 ou 50 ans, peut-être aussi parce que les enfants couraient dehors. La sédentarité était quand même beaucoup, beaucoup moins marquée.
Oui, absolument. Je me rappelle, j'étais il y a une trentaine d'années à l'île Maurice. Et à côté de moi, il y avait un responsable de santé de ce pays. Et il m'a dit, nous avons un grand problème à l'île Maurice, c'est qu'il y a une flambée de diabète. Je lui dis, comment vous l'expliquez? Il m'a dit, parce que comme nous ouvrons sur le tourisme, il y a énormément d'hôtels et tous les aliments qui sont en excédent, ils sont répartis sur la population. Donc des produits sucrés, des gâteaux, tout ceci a déclenché... Une l'augmentation de la surcharge pondérale, l'obésité et le diabète. Et c'est dans ce pays-là, le diabète est un vrai sujet, un vrai problème de santé publique.
Aussi en France ?
En France,
moins peut-être.
Moins, en France, moins. Il y a des pays, ils ont une bonne longévité. Et il y a des démographes, des scientifiques qui ont parcouru le monde pour expliquer pourquoi certaines populations vivent longtemps. Et ils ont appelé...
Les Japonais d'Okinawa.
Absolument. Et ils sont partis avec une carte géographique et avec un stabilo. Ils mettaient là où il y avait des gens nonagénaires, centenaires, etc. Et ils se sont rendus compte que des populations, des gens qui vivaient à plusieurs milliers de kilomètres, avec des coutumes, avec des habitudes alimentaires totalement différentes... Ils avaient des points en commun. Alors, ces points en commun sont... alors déjà, quels sont ces pays qui ont vécu longtemps? C'est en Méditerranée, en Grèce, en Sardaigne, le sud de l'Italie, le sud de Naples. C'est l'île d'Okinawa, comme vous venez de le dire. C'est au Costa Rica, dans une région qu'on appelle Nicoya. Et c'est au sud de la Californie, une région qu'on appelle Loma Linda. Alors, pourquoi ces gens vivent longtemps? Il y a des caractéristiques communes.
C'est incroyable quand même,
incroyable.
Éloignés les uns des autres.
Absolument. Alors, premièrement, ils ont une alimentation hypocalorique. Deuxièmement, ils sont peu exposés à la pollution et au stress quotidien. Troisièmement, ils bougent, ils font de l'exercice physique. Ils ne restent pas assis, ils vont marcher, ils vont faire du jardinage, du vélo, ils bougent. Quatrièmement, ils ont une activité sociale, même à un âge avancé. les liens sociaux sont très importants. Et cinquièmement, les liens familiaux et les liens amicaux sont très solides, inébranlables. Et enfin, ils ont une forme de spiritualité indépendamment de leurs convictions religieuses. Ce sont ces caractéristiques qui font la longévité d'une population.
Bah écoutez, c'est passionnant. Alors, après la chronique de littérature jeunesse de Valérie Daubigny, on parlera des questions d'éducation à l'alimentation, parce que je pense qu'il faut beaucoup penser aux générations futures sur le sujet. Mais on va d'abord rejoindre Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour Sophie.
Alors, quelle pépite avez-vous déniché aujourd'hui pour nos jeunes lecteurs ?
Eh bien, c'est un roman pour une tranche d'âge qui n'est pas facile à contenter, parce que c'est une tranche d'âge complexe avec des niveaux de lecture très variés. C'est la sixième, sixième, cinquième en élargissant au-dessus, et CM2 un peu en dessous pour des enfants qui sont bons lecteurs. Il faut pouvoir leur donner de bonnes aventures, de bonnes histoires, et qui soit tout de même, tout en étant consistante, qui soit adaptée à leur maturité affective, à laquelle je tiens beaucoup en matière de littérature jeunesse. Il s'agit d'un premier tome d'une série, j'espère, qui sera nombreuse, Les Mystères de Sinclair. Ce premier tome s'appelle Le vol du moineau d'or. Le contexte est un grand magasin type bon marché à Londres, au début du XXe siècle, création de ce premier grand magasin avec à tous les étages des rayons qui offrent des produits extraordinaires, de l'inconnu, du confort aussi. On fait très attention que les clients aient envie de rester, d'explorer. Bref, ça, on retrouve vraiment tout ce plaisir qu'on a en découvrant tous les romans qui ont eu pour cadre le bon marché. Mais ça ne s'arrête pas du tout là, parce que notre héroïne, Sophie d'ailleurs, est une jeune femme très solitaire. Elle a perdu son père, elle avait déjà perdu sa mère, elle se retrouve sans le sou pour une histoire d'héritage compliqué, et elle doit gagner sa vie. Elle devient donc vendeuse dans ce grand magasin Sinclair. Elle est au rayon des chapeaux, elle fait de son mieux. Il y a des petites mesquineries entre les vendeuses, etc. Le lecteur souffre pour Sophie, mais en même temps accompagne cette jeune fille qui est extrêmement courageuse, valeureuse, qui veut bien faire. Et voulant bien faire, elle se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est-à-dire sur le lieu d'un vol. On l'apprendra le lendemain. Et comme elle a été vue à cet endroit-là, dans la galerie avec beaucoup de trésors, des joyaux, et notamment un petit moineau d'or couvert de pierres précieuses, eh bien, elle va être accusée. Nous, lecteurs, nous savons qu'elle n'est pas la coupable. Et elle a de jeunes amis, un peu de toutes conditions sociales, c'est intéressant aussi. Et garçons et filles, autre point intéressant, il y a une très bonne altérité dans ce livre, où sans équivoque, sans faire passer les étapes trop vite aux jeunes lecteurs à travers l'héroïne, en fait, elle sait nouer des relations saines, des relations vraies. Et l'altérité est très bien montrée, c'est fait de manière très fine. J'ai trouvé que c'était un des points forts de ce livre. Ils vont mener l'enquête pour disculper leur cher ami. Mais ça ne va pas être facile, parce qu'en fait...
C'est toute une aventure, finalement. Je sens que voilà, qu'il doit y avoir un peu de suspense en même temps.
Et du suspense jusqu'à la fin, parce que beaucoup de masques des personnes en lesquelles on croyait, qui finalement ne sont pas ce qu'elles révèlent au grand jour, enfin ce qu'elles essayent de montrer. Bref, je n'en dis pas plus. Suspense, une très bonne enquête, une vraie enquête. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand on ne balade pas le jeune lecteur. Je vous disais, cette tranche d'âge, elle entre peut-être pour la première fois dans de vrais romans. Là, il y a 421 pages.
Ah oui, tout de même.
C'est assez gros. Ouais, mais c'est pas un livre écrasant. Il y a quelques dessins intérieurs en plus qui sont très jolis, noir et blanc. Il y a tout un ensemble très attrayant dans ce livre. Mais quand on a un enfant qui se lance dans 400 pages, faut pas le balader. Faut pas se moquer de lui, vous voyez, avec une fausse enquête. Là, et en plus, ça n'est pas fini. On sent qu'on n'a pas levé tous les mystères Et je dois vous dire que j'attends vraiment le tome 2 avec impatience. J'espère qu'il paraîtra à la fin du printemps, comme c'est annoncé. Donc voilà, cette jeune Sophie embarquera nos garçons et nos filles du CM2 à la 5e, mais bien sûr en élargissant, avec un grand plaisir d'évocation visuelle. J'essayais de vous montrer tous ces rayons de ce grand magasin. On entre vraiment là avec du vocabulaire, une belle féminité chez Sophie, de la force, mais avec de la féminité. Tout cela en fait vraiment un très très bon roman, très attrayant, une jolie couverture. Il est paru aux éditions Pulp Fiction. Il est paru là, au mois de février, 421 pages, comme je vous disais, 15,95 €. Il est imprimé en France.
Qui est l'auteur ?
Et ce que je voulais... oui, bien sûr, merci. Catherine Woodfine.
Donc c'est traduit de l'anglais.
Oui, c'est traduit par Faustina Fiore, traduit de l'anglais. Je remarque que quand Faustina Fiore traduit un livre, en général, il est bon.
Donc, elle choisit peut-être ses traductions.
Je ne sais pas, mais en tout cas, on oublie complètement que c'est une traduction. Il n'y a pas d'anglicisme, etc. C'est très bien fait. Et donc, c'est un très bon roman chez Pulp Fiction. Si nos auditeurs veulent soutenir la littérature jeunesse de qualité contemporaine, eh bien, il faut l'acheter, ce livre, ou il faut le demander à sa bibliothèque municipale. C'est un petit acte militant, en tout cas, c'est un petit acte qui soutient ce secteur qui souffre. Hein. Vous évoquez les problèmes d'alimentation, de sédentarité, etc. Et peut-être parlerez-vous des écrans. Le livre souffre de tout cela. À nous de pousser, et quand on a un très bon livre comme ça, eh bien, il faut en parler et faire résonner le tam-tam. Les mystères de Sinclair, le vol du moineau d'or, de Catherine Woodfine.
Merci beaucoup Valérie, à très bientôt.
Merci Sophie,
au revoir.
À bientôt.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans l'émission de Sophie Ruberti, Culture et Éducation. Je reçois le docteur Zamaria et nous parlons alimentation. Alors Valérie nous tendait une perche sur les écrans, sur la question de la sédentarité. Quelles qu'elles soient, en particulier alimentaires, se prennent tôt. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux parents pour faire en sorte de donner à leurs enfants la santé au travers de l'assiette?
Ben, la santé se construit dès le plus jeune âge, jour après jour, et dans l'assiette. C'est l'équilibre alimentaire, la diversité des aliments que nous consommons qui font que on prend le bon chemin pour nous protéger contre les maladies. Vous savez, autrefois, on pensait que tout était génétique. C'est-à-dire...
Oui, c'est vrai, toutes les maladies étaient génétiques.
C'est la génétique qui déterminait tout. Aujourd'hui, la science nous dit que l'environnement joue un rôle très important dans ce qui nous arrive. Et quand je parle de l'environnement, il y a bien sûr... notre mode de vie, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on boit excessivement, est-ce qu'on est sédentaire, est-ce qu'on est exposé à des polluants, est-ce qu'on est assujetti à un stress chronique et répété, est-ce que notre alimentation est équilibrée ou pas. Tous ces éléments font que ces facteurs-là, on les appelle les facteurs épigénétiques. Et ces facteurs épigénétiques vont moduler nos propres gènes. C'est-à-dire, soit nos gènes vont s'exprimer de mauvaise manière, soit au contraire, de bonne manière. Autrement dit...
C'est-à-dire que les gènes, la génétique n'est pas statique et figée.
Absolument. Alors,
ça aussi, c'est une découverte.
C'est tout à fait récent, depuis pas longtemps. On sait que nos gènes sont modulables en fonction de notre environnement et en fonction de notre alimentation. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu de bons gènes de ses parents, mais qu'il a une hygiène de vie déplorable, eh bien, il s'expose à des maladies. Beaucoup plus que quelqu'un qui a reçu de gènes moyens et que, par contre, il s'applique une bonne hygiène de vie.
Ça, c'est vraiment intéressant comme remarque.
C'est passionnant. Oui. Et ça, on appelle ça l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de notre environnement. Bien sûr, l'alimentation joue un rôle capital dans notre dans l'environnement. Une bonne alimentation, de l'exercice physique modéré et régulier, la gestion optimale du stress.
Ça, c'est pas toujours simple.
C'est pas toujours simple, c'est vrai. Il faut éviter de les gens anxiogènes dans son entourage, quand on peut.
Ça, c'est une bonne idée, mais c'est pas toujours simple non plus. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il nous semble plus facile d'agir.
Exactement. Donc, l'épigénétique, aujourd'hui, joue un rôle beaucoup plus important à ce que nous pensions autrefois. Autrefois, on pensait que tout était signé et déterminé génétiquement. Eh bien non, aujourd'hui, on sait que le mode de vie, l'alimentation joue un rôle très très important dans la bonne santé des gens.
Oui, donc tous ces éléments-là, à partir du moment où on les connaît, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? En tant que parent, père ou mère de famille qui doit nourrir mes enfants, donc vous nous avez donné des bases, mais ouais. Comment est-ce qu'on va faire pour éduquer nos enfants dans un sens où ils vont prendre en charge leur santé au travers de leur assiette?
Absolument. Donc, premièrement, équilibrer, diversifier son alimentation. Ça, c'est très, très important, l'assiette. Deuxièmement, éviter depuis le plus jeune âge de s'exposer au tabac et à la drogue et à toutes ces substances nuisibles. Là, c'est très important. Ensuite, encourager les enfants à bouger. Aujourd'hui, des études inquiétantes qui montrent que les jeunes ne bougent pas du tout comme avant, beaucoup moins. Ben, ils sont derrière leurs écrans, les tablettes, ils communiquent par les réseaux sociaux, ils font plus de sport, beaucoup moins qu'avant, ils bougent moins. Ça aussi, il faut que les parents prennent conscience et encourager les enfants à bouger, à faire de l'exercice physique et du sport.
Donc sport et dehors à la sortie de l'école.
Absolument, voilà. Et quatrièmement, tout à l'heure j'ai parlé des les grands principes qui contribuent à la longévité. Et il y a une chose aussi que je dis souvent aux gens, c'est bien tout ça, mais il faut aussi travailler ses neurones. Autrement dit, s'imposer tous les jours au moins 30 minutes de lecture. Quelle qu'elle soit cette lecture, un journal, une revue, un magazine, faire des mots croisés, il faut absolument que les gens activent leurs neurones pour maintenir le fonctionnement du cerveau intact le plus longtemps possible.
Une petite question très, 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 très pratique d'un auditeur. Il y a quelques années, une naturopathe m'avait conseillé de consommer régulièrement de la levure boulangère fraîche telle qu'elle, nonobstant son goût particulier. Or, des médecins, eux, me la déconseillent formellement. Qui croire?
Alors, on conseille la levure de bière parce qu'elle est riche en vitamines du groupe B. Au moment de la consultation, la professionnelle de santé lui a conseillé de prendre des levures ponctuellement, pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment justifié de prendre de la levure de bière sur le très long terme? Je ne vois pas l'utilité.
Il n'y a pas d'intérêt.
Voilà.
Bon, écoutez, au moins notre auditeur aura eu une réponse claire et directe à sa question. Mmh. Dans votre livre, vous parlez de chrononutrition. Est-ce qu'on peut évoquer ce sujet? Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit?
Très intéressant. La chrononutrition, c'est manger le bon aliment, la bonne quantité et surtout au bon moment de la journée.
Alors, c'est quoi le bon moment de la journée?
Alors, parce que nos enzymes qui assimilent les aliments ne fonctionnent pas de la même façon le matin, le midi et le soir.
Alors, il y a des choses qui nous semblent évidentes. Pas de couscous au petit déjeuner?
Alors,
ou pas de choucroute au petit déjeuner?
Je vous donne un exemple. Les gens qui ont des soucis parce qu'ils ont trop de cholestérol, on leur conseille de ne pas consommer des œufs parce que le jaune d'œuf est riche en cholestérol. Or, on sait aujourd'hui, si vous consommez des œufs le matin, eh bien, les enzymes qui métabolisent le cholestérol sont très actifs le matin. Par contre, pas du tout le soir. Autrement dit, si vous voulez manger des œufs au plat ou une omelette, eh bien, plutôt le matin, parce que le cholestérol qui provient des œufs va être métabolisé et il ne va pas être rajouté au cholestérol que nous fabriquons nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux tiers du cholestérol, ce sont nos propres cellules au niveau du foie qui produisent le cholestérol. Donc là, en consommant, en modifiant l'heure de consommer le jaune d'œuf qui est riche en cholestérol, le matin plutôt que le soir, on s'est rendu compte que non seulement le cholestérol n'augmente pas, mais même le bon cholestérol, qu'on appelle le HDL, eh bien, il est amélioré lorsque on le consomme le matin. Un autre exemple, si vous avez le choix de consommer une pâtisserie, soit à midi, soit le soir, sans hésitation à midi, parce qu'à midi, les sucres vont être métabolisés. Par contre, les sucres, quand ils sont consommés tardivement, eh bien, sur le long terme, ces sucres risquent de se transformer en lipides qui vont se rajouter aux lipides au niveau abdominal chez les hommes et au niveau des fesses chez les femmes. Donc, si j'ai un conseil à donner pour consommer les produits sucrés, essayez de modérer après 18 heures et préférez de consommer une pâtisserie à midi plutôt que le soir.
Donc finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on mange, mais aussi la manière dont on le mange et quand on le mange. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Une dernière chose que vous auriez envie de dire ?
Non,
je crois qu'on a déjà bien, ouais. bien vu le sujet.
Alors, oui, juste une chose, c'est que tous mes droits d'auteur vont à l'Institut Pasteur pour financer la recherche.
Donc c'est pour le livre « Votre santé au bout de la fourchette » aux éditions, ce sont des éditions belges d'ailleurs.
Tout à fait.
Résurgence, édition médicale. On va passer maintenant à notre coup de cœur. Quel coup de cœur avez-vous choisi de proposer à nos auditeurs ?
Alors, j'ai vu un film qui s'appelle « Le mage du Kremlin ». Ce film, c'est une belle adaptation au roman de l'Italien Giuliano da Empoli. Il s'agit d'une fiction de la vie en Russie post-soviétique de ces 25-30 dernières années. Et ma foi, je le trouve pertinent et intéressant.
Alors, j'ai vu ce film aussi. Il se trouve que je l'ai vu il y a une quinzaine de jours et j'ai trouvé aussi que c'était très intéressant. J'imagine qu'on a dû en parler sur Radio Courtoisie et bien évidemment en creux c'est un conseiller de Poutine qui d'ailleurs dans la réalité n'a pas l'importance qu'on lui prête dans le film. Mais je crois que le message est assez intéressant sur l'ambiance générale post-soviétique.
Tout à fait.
Est-ce que c'est devenu maintenant ?
Tout à fait, c'est une période intéressante. C'est vrai que c'est une fiction, mais elle est basée sur des faits réels. Et ça donne un aperçu, une idée de l'évolution de la société russe post-soviétique. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons, mais moi, je trouve qu'il apporte des éclaircissements et des interrogations. Donc, pour moi, c'était un bon moment de lecture et le film reflète relativement bien le roman.
Donc, le mage du Kremlin qui est encore à l'affiche. Alors, chers auditeurs, vous savez que dans cette émission, j'aborde des sujets vraiment, vraiment variés en matière d'éducation, en matière de culture. Alors, si vous avez des envies particulières, si vous souhaitez que je traite un sujet ou un autre, parce que ça présente un intérêt à vos yeux, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir au travers du secrétariat de la radio. Je serai très contente de d'aborder des sujets un peu divers. Donc je suis toujours, maintenant ça fait, c'était la 80e émission de Culture et Éducation, bravo. Donc vous voyez que ça, cette émission dure dans le temps. Alors je voudrais remercier le docteur Nicolas Zamaria, donc biologiste, et qui nous a vraiment introduit dans cette question de l'alimentation, de la santé. Vous pouvez en savoir plus sur, vous pouvez creuser, j'ai été aussi passionnée par l'histoire de l'alimentation que vous développez au début de votre livre. J'ai été passionnée par ces questions de, ben voilà, comment est-ce qu'on mangeait au temps de Néandertal, alors ça, c'est intéressant. Comment on mangeait et buvait à la table des Gaulois, aussi au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, c'est vraiment passionnant. Alors merci docteur Nicolas Zamaria.
Merci à vous.
Merci à Benoît, notre réalisateur. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous le 26 mars.
Vous venez d'entendre Culture et Éducation, dirigée par Sophie Ruberti, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 février 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.